Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Si tu peux bien mettre la présentation en PowerPoint que j'ai préparée spécialement pour vous ce matin. Alors, je viens d'où ?
Lyon.
Je ne viens pas de Lyon. Et je suis je voulais vous remercier pour votre invitation. On a passé un très très bon moment hier au restaurant. Et c'était un moment où on s'est penché sur la création, sur un livre très très ancien, un livre de la Genèse. Et j'ai appris ce matin qu'il y en avait qui avaient tchatché jusqu'à 2h du matin après cette conférence. Donc oui, c'est normal. Je veux dire, ça fait parler. On est intéressé, n'est-ce pas, par d'où on vient et où on va. Je suis pasteur à Marseille. Donc voilà, je viens de Marseille, non pas de Lille, désolé. Depuis 21 ans avec mon épouse, on a 4 enfants. Et maintenant, 2 petits-enfants. J'ai appris ce matin que je ne fais toujours pas partie du club des seniors. Ça va venir. Mais voilà, on a passé un très très bon moment hier. Et dans cette grande ville de Marseille, je pense que c'est un petit peu pareil à Lyon, hein, on rencontre beaucoup de gens qui sont un petit peu désorientés. De plus en plus de gens qui sont désorientés. Et ça n'a rien à voir avec l'arrière-plan familial. Ça peut arriver dans n'importe quel milieu, je me rends compte, de rencontrer aujourd'hui de plus en plus de gens désorientés. Parce que tout simplement, on a oublié de poser un peu les bases de là où on vient, de là d'où on vient, d'où on va aussi. C'est très important pour un homme, pour une femme, de savoir d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Je pense qu'il y a dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose comme ça, c'était Jésus. Il avait dit « Moi je sais d'où je viens et où je vais ». Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut parler de cette manière-là. Est-ce que je sais d'où je viens ? Est-ce que je sais où je vais ? Et pourtant, quand on a la possibilité de répondre à ces deux questions, ça change. Et ça change vraiment les choses. D'où je viens et où je vais, ce n'est pas des questions pour les intellos non plus. Ce n'est pas une question qu'on se pose dans un moment philosophique. D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Etc. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement, de se poser des questions. C'est des questions hyper importantes quand ça va mal. C'est là qu'elles sont importantes, ces questions. Et c'est important d'avoir les réponses à ces questions quand ça va mal. Quand ça va bien, à la limite, c'est juste un exercice intellectuel. Mais quand ça va mal, on a besoin d'être fondé. On a besoin de savoir d'où on vient et où on va. Qu'est-ce que c'est que l'origine de l'homme ? Si je fais partie de la race humaine, moi, eh ben, qu'est-ce que c'est que l'origine de la race humaine ? Parce que ça répond aussi à ma question d'où je viens et pourquoi est-ce que je vis ? Ces questions-là, on se les pose d'autant plus quand on a des problèmes et des épreuves dans la vie, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Quel est le sens de tout cela ? Et puis, où est-ce que je vais ? Où est-ce que va le monde ? Vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de phrases ? Vous n'avez jamais entendu ce genre de questions autour de vous ou dans votre propre cœur ? Je les ai entendues plein de fois, je les entends encore. Ce sont des questions importantes, on les appelle les questions fondamentales. Un élément de réponse que nous donne un livre très très ancien. Alors j'espère que tu sais faire marcher les appettes. Elles sont toujours différentes. Vers le bas ? À droite, c'est-à-dire à ma droite. Merci beaucoup. À ma droite. J'essaye. Obéis. Donc j'essaye sur la gauche ? Elle n'obéit pas, ta zapette. Ah pardon, il faut viser par là, d'accord. Ouais, j'ai un retour en haut, d'accord. Excusez-moi, je prends mes marques. Bon, ça va être chaud avec cette zapette. Vous voyez tous l'écran ?
Oui.
C'est l'essentiel. Voilà, c'est pour ça que ça existe, les vidéoprojecteurs. Donc voilà, un élément de réponse à cette question, d'où est-ce que je viens ? Un livre de l'origine, le livre de la Genèse qui a été écrit il y a très très longtemps, nous donne un élément de réponse. On peut lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et puis une autre phrase, un peu plus loin dans le texte de la Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ben voilà, on a les réponses. Merci de m'avoir écouté. Amen. Et à bientôt. C'est tellement simple, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui fait que ces questions, justement, continuent à demeurer dans notre cœur et que malgré le fait qu'on puisse lire ce genre de choses-là, on n'est toujours pas satisfait ? Il y a toujours des questions sur où est-ce que je viens ? D'où est-ce que je viens vraiment ? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pourquoi c'est devenu compliqué, finalement? Pourquoi c'est devenu compliqué? Est-ce que toi et moi, on n'a pas été élevés comme ça, des fois? On nous a pas dit ces choses-là. Moi, je viens d'un endroit où on m'a pas expliqué ces choses-là. Moi, on m'a expliqué que je descendais du singe. J'avais un peu de peine avec l'idée, mais je m'y suis fait très bien et très vite. Je descends du singe, le singe vient d'où? Peut-être. Ou peut-être encore pire, d'une espèce de rat, ou je sais pas trop. Et le rat, il descend d'où? Ah ben, d'une espèce d'amibe ou d'un reptile, voilà. Un être amphibien. Et l'être amphibien, il descend d'où? D'un espèce de... une cellule. Et la cellule, elle descend d'où? D'atomes qui se sont rencontrés. Et ces atomes, ils viennent d'où? De particules subatomiques. Et ces particules subatomiques, elles viennent d'où? Elles ont toujours été là. Dans la soupe cosmique de l'univers. Mange ta soupe d'ailleurs. La soupe cosmique de l'univers, c'est quoi? C'est la matière qui a toujours été là. On a remplacé Dieu par la matière. Dieu l'éternel par la matière éternelle. Alors on est des êtres qui viennent du hasard. On a été quand même assez vernis d'être ce qu'on est aujourd'hui, avec tous ces atomes qui se sont rencontrés. Voilà ce qu'on est devenu. Et quand on lit ce genre de phrase, ça ne clique pas dans notre tête. Il n'y a pas la connexion qui se fait. C'est tellement différent de ce qu'on a entendu. Je vais vous lire très rapidement le résumé d'une conférence qui a été donnée par un docteur, le docteur Duan Dish, qui est un biochimiste. Il a beaucoup parlé sur les universités, sur les campus universitaires, et si cette zapette marche, ça va être, on va pouvoir un petit peu voir cette conférence ensemble. Comment ? Maxime, toi et moi, on va travailler ensemble, d'accord? Et quand je fais ça, ce geste, très discret, que personne d'autre que toi ne verra, ça veut dire qu'il y a un... d'accord? Ok, merci Maxime. Donc le Ramapithèque, ça c'est... En fait, on a essayé de chercher le chaînon manquant, vous savez? L'être qui existe entre le singe et l'être humain. Certains considèrent le Ramapithèque comme un hominien, un homme-singe. Et il porte jugement à partir de quelques dents et de quelques fragments de mâchoire. Ce sont les seules pièces fossiles qu'ils aient. Le docteur Jolley a signalé qu'une espèce de babouin en Éthiopie a les mêmes caractéristiques que le Ramapithèque pour ce qui est des dents et de la mâchoire. Ces caractéristiques ne sont pas celles de l'homme. D'autres anthropologues ont admis que le Ramapithèque était tout simplement un singe. Pourtant, quand on a trouvé ça, on a dit que c'était le chaînon manquant, la preuve que l'homme descendait du singe. L'homme de Pékin. En Chine, aux alentours de 1920, des fragments de crâne, des mâchoires et des dents ont été trouvés dans une falaise calcaire près de Pékin. Cependant, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tous les ossements originaux ont disparu. Toutes ces créatures avaient été tuées et mangées, et les crânes conservés comme trophées. Certains anthropologues éminents croient que les chasseurs étaient des hommes. L'homme de Pékin peut donc n'avoir été qu'un singe géant. L'australopithèque, parce que tout ça, ça nous a été chaque fois donné comme la preuve qu'on descend du singe dans les magazines de la science vulgarisée. La première découverte de l'australopithèque a été faite par Dart en 1924. Il a signalé plusieurs traits du crâne relevant du singe, mais il a cru que les dents relevaient de l'homme. Son cerveau n'était que le tiers de celui d'un homme actuel. Il ne mesurait que 4 pieds environ, 1,20 m. Le truc là. Récemment, Richard Leakey a publié la preuve que l'australopithèque avait de longs bras, de courtes jambes et qu'il marchait à 4 pattes. Tout comme les singes africains d'aujourd'hui. Ces créatures n'étaient rien d'autre que des singes. Vous avez entendu parler de l'homme de Java? L'homme de Java a été élaboré à partir d'un fémur, écoutez bien ça. Un fémur, un dessus de boîte crânienne et 3 molaires. Ces parties furent trouvées sur une distance de 15 mètres en l'espace d'une année. Le docteur Dubois, son découvreur, a caché pendant 30 ans le fait qu'il avait trouvé des crânes humains près de l'homme de Java et au même niveau. Ainsi, l'homme était vivant au moment où cette créature existait. Plus tard, on a découvert que l'homme de Java était probablement un gibbon géant, pas du tout semblable à un homme. L'homme de Néandertal, vous avez entendu parler de lui ? L'homme de Néandertal a une structure squelettique semblable à celle d'un homme actuel. On a dit qu'il a vécu il y a ça très longtemps. Alors quand j'étais jeune, il avait vécu, ça fait 100 000 ans. Maintenant, c'est 25 000 ans. Plus proche de nous. S'il vivait aujourd'hui, tous les anthropologues croient qu'il n'était qu'un homme comme vous et moi. L'homme de Cro-Magnon. Des squelettes complets de l'homme de Cro-Magnon ont été trouvés. Leur capacité crânienne est plus grande que celle de l'homme actuel. S'il vivait aujourd'hui et qu'il soit dans la rue habillé comme vous et moi, il passerait totalement inaperçu. Ces créatures étaient des hommes. Alors la plus embarrassante, une des plus embarrassantes prétendues découvertes du chaînon manquant sont le fameux homme du Nebraska et l'homme de Piltdown, et je terminerai avec cette conférence-là. Au fameux procès de l'évolution à Dayton, Tennessee, l'homme de Nebraska fut présenté par les autorités scientifiques de l'époque comme une preuve de l'évolution. Ils ont ri et se sont moqués de ceux qui ont contesté que la preuve était mince. La preuve, elle était basée sur une dent provenant supposément d'un homme préhistorique qui aurait vécu il y a environ 1 million d'années. Cependant, des années plus tard, quand d'autres fossiles furent déterrés, on découvrit que l'homme de Nebraska n'était qu'un porc. C'est le cas de dire que le fossile avait joué aux évolutionnistes. Un tour de cochon. Dernier chaînon manquant, et j'arrête avec ça, l'homme de Piltdown. En 1912, l'homme de Piltdown, Charles Dawson, avait amené sur la scène l'homme de Piltdown, un morceau de mâchoire, deux molaires et un morceau de crâne. Voilà les preuves acclamées par les experts comme démontrant l'existence d'un homme singe il y a environ 500 000 années. Mais en 1953, la mystification fut dénoncée. L'os de la mâchoire était celui d'un singe moderne. Les dents avaient été limées et les os avaient été artificiellement colorés pour tromper le public. La facilité avec laquelle cette fraude a berné les plus grandes autorités scientifiques montre à quel point les idées préconçues de l'évolutionniste sont présentes dans l'esprit des scientifiques aujourd'hui. La preuve de l'homme de Piltdown, c'est que ça a été une supercherie. Alors régulièrement, vous allez voir dans les magazines de pseudo-sciences un chaînon manquant qui a été découvert. Attendez seulement quelques années pour voir finalement que ce chaînon manquant, c'est soit un singe, soit alors un homme, soit pire que ça, une supercherie. Pour le moment, en tout cas, au moment où je parle, le chaînon manquant manque toujours. Il faut le savoir. Nous n'avons aucune preuve que l'homme descend du singe. Aucune preuve scientifique. Tout ça, ce n'est pas la science, ce sont des théories scientifiques. C'est deux choses très différentes que la science et que les théories scientifiques dont je viens de parler ici. Deux choses complètement différentes qu'il ne faut peut-être pas mélanger. Alors si on retourne justement au texte biblique, créé à sa ressemblance, selon son image, voilà un verset que j'aimerais partager avec vous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, on a un lien avec notre origine. Nous avons été créés par Dieu, selon l'image de Dieu et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Est-ce que vous vous êtes posé ces questions? Si vous ne les êtes pas posées, c'est peut-être parce qu'il y avait trop de chaînons manquants dans votre tête. Mais si on les évacue un petit peu et qu'on se pose cette question à propos de ce texte qui nous parle de notre origine. Si on a été créé à la ressemblance de Dieu et selon son image, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines personnes ont pensé qu'être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, c'était être créé avec le don de parole. Vous avez remarqué que les êtres humains sont les seules personnes qui peuvent parler sur la planète Terre. Les animaux, ils parlent pas. Ils ont des signaux pour quand ils ont peur, quand ils ont faim, mais ils parlent pas comme nous. Certains ont dit, on a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est les seules créatures sur la terre à être capables de parler, animer des concepts abstraits avec notre tête. C'est très, 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 très intelligent de pouvoir faire ça. C'est une possibilité. Certains ont dit, ben précisément, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire que sur toutes les créatures de la terre, nous sommes les seuls à être intelligents, capables de manifester de l'intelligence. Oui, il y en a qui ne sont pas tellement intelligents, apparemment, mais quand même, ils sont plus intelligents que les animaux. C'est peut-être une possibilité. Certains disent, être créé à l'image de Dieu, c'est être capable d'aimer. Finalement, l'amour, c'est un sentiment très fort et très particulier qui appartient à l'être humain. C'est ça, être créé à l'image de Dieu, c'est être capable d'éprouver de l'amour et de le vivre. Qu'est-ce qu'on est différent des animaux? L'être humain est une créature unique. Tu es unique, je suis unique. Vous comprenez qu'en évacuant cette histoire de chaînon manquant, finalement, on découvre que l'être humain est complètement différent de l'animal. C'est une évidence. Alors oui, peut-être, effectivement, ça veut pouvoir dire que l'être humain est capable d'aimer. Peut-être c'est ça, être créé à l'image de Dieu. D'autres disent, être créé à l'image de Dieu, c'est que la vie de l'être humain est sacrée. Oui, c'est vrai. Même si tu fais partie de la SPA, tu tues un chien, c'est grave. Tu tues un chat, oui, ok, c'est pas très joli. Mais si tu tues un être humain, et c'est pas pareil, hein. Au niveau de ce que ça fait dans la tête aussi, c'est complètement différent. Si on a tué un autre être humain, et ceux qui ont fait la guerre ou qui ont dû tuer quelqu'un même pour le compte d'un gouvernement, ils le savent. C'est pas facile. Parce que la vie humaine est sacrée. Ça, quelque part, au fond de nous, on le sait. C'est peut-être ça, être créé à l'image de Dieu. D'autres disent, être créé à l'image de Dieu, ça veut tout simplement vouloir dire que l'être humain, il est capable d'adoration. Il est capable d'adorer un être qu'il ne voit pas avec ses yeux. Et ça n'existe pas dans le genre animal. Il n'y a que l'être humain qui peut adorer un être suprême qu'il appelle Dieu. Oui, la capacité d'adoration, ce matin on a chanté des chants qui montrent que l'être humain a une capacité d'adoration, la capacité de remercier quelqu'un qu'il ne voit pas et qu'il sait être au-dessus de lui. C'est peut-être ça, être créé à l'image de Dieu. D'autres encore disent, l'être humain, il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il domine sur les animaux. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Oui, c'est peut-être ça aussi, être créé à l'image de Dieu. Être créé à son image, selon sa ressemblance. Si vous avez la curiosité de lire quelques lignes plus loin que ce texte, vous allez trouver un autre verset. Hello. Genèse 5, 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Ici, on ne parle pas de Dieu, on parle de Adam, le premier homme. Il a eu un fils, il l'a appelé Seth. Peu importe. Mais tu as vu comment c'est écrit ? Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. C'est la même expression que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Là, un théologien intelligent, un être humain, qui connaissait un petit peu l'hébreu, a expliqué quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser ce matin. Il a dit, chez les juifs, à son image, selon sa ressemblance, c'est une expression. C'est l'expression de la filiation. C'est l'expression qui peut être traduite en français par un fils. Si tu as quelqu'un à ton image selon ta ressemblance, si tu dis ça à un juif, ça veut dire j'ai eu un fils ou une fille. Tu as remarqué que ton fils ou ta fille, effectivement, te ressemble à ton image selon ta ressemblance. C'est un hébraïsme pour dire un fils. Je reviens maintenant à la première phrase. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça veut dire que le projet de Dieu, c'était de créer des fils et des filles? Est-ce que l'origine de l'être humain, ça serait d'être fils ou fille de Dieu? C'est important, parce que si on vient de cette origine-là, ça veut dire qu'on a été destiné à devenir fils ou fille de Dieu. C'est notre identité. Et cette identité, elle manque cruellement. Quand on parle du chénon manquant, on ne sait pas, on ne nous explique pas cette dignité que Dieu a placée sur notre vie. Il n'a pas juste créé des êtres vivants, il a fait des animaux. Mais nous sommes différents des animaux en quoi? Toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure sont probablement justes, la capacité d'aimer, l'intelligence, le don de parole, etc. Mais tout ça, ce sont des expressions de quelque chose de plus profond. Dieu a désiré créer des fils et des filles et les adopter. Et les adopter. Nous avons été créés pour être adoptés par Dieu. Voilà notre origine. Voilà pourquoi j'existe, pourquoi tu existes. Tu as été créé parce que Dieu a l'idée, le projet de t'adopter comme un fils, comme une fille. C'est d'ailleurs dans le cœur de Dieu. Et quand je lis le Nouveau Testament, je me rends compte que Dieu le Père nous a aimés, Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Quand je me tourne vers la deuxième personne de la Trinité, le Fils, c'est difficile, la Trinité, un Dieu en trois personnes, faut s'y faire, c'est le Dieu de la Bible. Il est un Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Si on ne comprend pas la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le truc, c'est pas d'essayer de l'expliquer, c'est de se diriger vers le Fils. Si tu ne comprends pas le Père, dirige-toi vers le Fils. Si tu ne comprends pas l'Esprit, dirige-toi vers le Fils. Dirige-toi vers le Fils. Dirige-toi vers le Fils, parce que c'est lui qui ouvre le secret de la Trinité. Pour en revenir à ce que je disais là, le Père, son projet, c'est de nous adopter comme ses fils. Le Fils lui-même dit, mais va trouver mes frères après sa résurrection, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là aussi, le Fils affirme que son projet, c'est qu'on devienne fils et fille adoptifs de Dieu. Et quant à la troisième personne de la Trinité, l'Esprit, est donné à toutes celles et ceux qui acceptent ce plan de Dieu. Regardez. Et en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Combien de gens aujourd'hui, en parlant de Dieu, parlent à une espèce de monstre dont ils ont peur? Moi, je me rappelle, la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, il y a un chrétien qui m'a dit, tu sais que tu peux rencontrer Dieu en Jésus-Christ? J'étais terrifié. J'ai dit, rencontrer Dieu, j'espère le plus tard possible. Parce que pour moi, ça voulait dire mourir. Eh oui, on oublie que notre première impulsion par rapport à Dieu, c'est le rejet, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la terreur. Si vraiment Dieu existe et je le rencontre, eh, c'est Dieu. Mais Dieu nous aime. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba ». C'est un mot hébreu, araméen en fait, qui veut dire « papa ». Il a été traduit ici par « père ». Une intimité, un degré d'intimité avec la divinité extraordinaire. Au point que ceux qui ont reçu cet esprit reçoivent la force de pouvoir s'adresser à Dieu en l'appelant « papa ». Adopté par un papa céleste. C'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu continue, une fois qu'on a été adopté, il nous élève. Parce que quand on a été adopté dans une famille, imagine que tu viens de la rue et que tu as été adopté dans une famille de nobles. Dis-moi, tu ne vas pas commencer à te conduire comme monsieur de machin chouette tout de suite. Hein. Ça va prendre quand même un peu d'éducation pour toi, un peu de temps pour apprendre à changer de statut. Tu croyais, je croyais que je venais du singe et d'un coup, je me rends compte en lisant la Bible que ma destinée, c'est être adopté par Dieu. C'est génial. Et j'accepte cette adoption. Mais ça prend du temps ensuite pour se comporter comme un véritable enfant de Dieu. Quand tu rentres dans la famille de Dieu, il y a une question d'éducation. Et c'est génial d'avoir un père qui éduque. Je sais qu'il y a peut-être des gens ici qui ont manqué d'un père, qui ont manqué d'une éducation, ou qui ont eu un père qui n'était pas digne d'être appelé père. Mais Dieu est digne d'être appelé père et il nous éduque. Et il fait de nous ses enfants Et il nous apprend de plus en plus ce que ça veut dire être ses enfants. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Vous voyez, c'est moi qui soulignais. Transformés en son image. Nous retrouvons finalement ce qui était le plan originel de Dieu. Il nous avait créés pour être son image, selon sa ressemblance, pour être fils et filles adoptives. Et ce plan-là, ben, dans le Nouveau Testament, on voit l'adoption de Dieu qui se concrétise. Mais ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a été inventé par les chrétiens. C'est quelque chose que Dieu il avait dans son cœur dès les premiers moments de la création. Et qu'il a pu accomplir par Jésus-Christ. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Voilà le plan de Dieu pour nous. Une fois comme ça, je suis allé dans une étude biblique chez une amie. Elle habitait un grand loft. Elle venait de se convertir, d'accepter Jésus comme son maître et seigneur. Et elle avait des amis et des gens du voisinage autour d'elle. Sur la table, il y avait des coupes de champagne. Elle me dit, tu veux une coupe? Je n'ai pas trop l'habitude de boire du champagne, avoir une étude biblique, mais pourquoi pas, hein. Ok. En plus, il était bon. Et j'ai dit par la même occasion, pourquoi est-ce qu'on boit du champagne? Et elle m'a dit, ah, parce que voilà, ma voisine, là, vas-y, allez, vas-y, raconte-lui. Et donc, sa voisine m'a raconté. Et elle m'a dit, enfin, voilà, j'ai réussi. Tu as réussi quoi? J'ai réussi à l'adopter. Ça faisait des années, cette femme se battait pour adopter un enfant. Qu'elle a été chercher à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, elle a été le chercher, cet enfant. Elle a dû être confrontée à des autorités qui étaient pleines de compromis. Elle a dû verser des pots de vin. Elle a dû faire des dossiers qui n'ont pas abouti. Elle a dû graisser la patte à des fonctionnaires véreux. On lui a dit, oui, tu peux le prendre, mais non, il ne fallait pas, etc. Enfin, après plein de tergiversations, enfin, la procédure d'adoption avait abouti. Et cette femme était tellement heureuse parce qu'elle était en train de me dire, oui, ça y est, voilà, dans quelques semaines, il va pouvoir faire partie de la famille. C'est fait. Alors, champagne. Et moi, je regardais cette femme. Et c'était trop énorme. Parce qu'on peut avoir un fils par accident. Quand on n'a pas trop bien calculé son coût et que la contraception n'a pas marché, etc. On l'attendait pas, celle-là ou celui-là. Ça peut arriver, non? Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants qu'on n'aime pas ensuite. Mais c'est une surprise. Surprise, surprise. Un enfant adopté. Un enfant adopté n'est jamais une surprise. Un enfant adopté est toujours un enfant désiré. On n'adopte pas un enfant par hasard. Parce que la procédure d'adoption, elle est coûteuse. Elle est longue. Elle demande de la persévérance. Dieu voulait nous adopter comme ses fils et ses filles au commencement. Ça aurait été tellement facile si l'homme ne s'était pas détourné de Dieu. On aurait grandi en Éden, vous et moi, dans une terre qui aurait ressemblé à un paradis. On aurait parlé à Dieu comme on est en train de se parler là. On n'aurait pas eu besoin de mettre des clés aux portes. On se serait fait confiance. On n'aurait pas eu tout ce système financier, ce fric. On n'aurait pas eu toutes ces histoires qui nous arrivent. On aurait vécu dans un monde idéal. On aurait exploré la création avec Dieu. On aurait trouvé les nouvelles sources d'énergie. Dieu nous aurait dit où elles sont. Elles sont peut-être juste à côté de nous. On marche dessus, peut-être sans même le savoir. Dieu nous aurait montré les trésors de sa création. Au lieu de ça, les premiers êtres humains se sont détournés de Dieu et ont vécu leur vie sur leur propre connaissance, sans Dieu. Ils ont été explorer une nature hostile, sans le concours de Dieu. Et ils se sont retrouvés confrontés à quelque chose qui les dépassait. Les bêtes sauvages, les tremblements de terre, la nudité, la faim, la soif, la mort. Avec Dieu, tout ça ne serait pas arrivé. Mais Dieu n'a pas lâché l'affaire et la procédure d'adoption a continué. Tout au long des âges, il devait venir un moment où Dieu mettrait son dessein à exécution. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. La procédure d'adoption, elle a été coûteuse. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, il s'est confronté à des autorités qui étaient véreuses, Ponce Pilate et consorts. On l'a battu, on l'a méprisé. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être adopté. Et il a ressuscité. Et aujourd'hui, ce plan d'adoption a été accompli. Champagne. Champagne. Tu sais, quelle est ta destinée, quelle est ma destinée? C'est être adopté par Dieu. Et ce plan d'adoption a été accompli par Jésus-Christ. Lui, le Fils éternel de Dieu, nous a donné sa place de fils. Il nous en a fait cadeau. Et la manière de s'approprier cette place de fils, c'est pas pour les gens qui sont intelligents, c'est pas pour les gens qui viennent à l'église depuis qu'ils sont petits, c'est pas pour les gens qui sont religieux et qui ont lu toute leur Bible en latin, en hébreu ou en grec. La manière de s'approprier l'adoption de Dieu, c'est simplement de lui faire confiance. Oui, sur la croix, quelqu'un m'a offert cette adoption pour que moi je devienne fils ou fille de Dieu. La confiance. La confiance, c'est la chose la plus simple et la plus dure. Parce qu'elle remet tellement en question. Ça va, ça t'a intéressé ce que je t'ai dit depuis ce matin? Tu as pensé à ta chaise ou à ton banc? Non? Ça veut dire que ça va, je n'ai pas été trop rasoir. Parce qu'en général, quand on a mal aux fesses, c'est qu'on pense à son banc. Ou il y a aussi une autre raison. Hein. On peut penser aussi à son banc ou à sa chaise quand on n'a pas tout à fait confiance en elle. Et qu'on pense, elle peut se dérober sous mon poids. Si tu n'as pas pensé à ta chaise ou à ton banc, c'est parce que tu t'es appuyé sur ton banc ou sur ta chaise et que tu lui fais pleinement confiance. Le mot pistis, en grec, ça veut dire s'appuyer sur. Et ce qui a été traduit en français par la foi. La foi, c'est de faire confiance, de s'appuyer totalement sur Dieu, au point que ça devienne tellement partie intégrante de notre vie qu'on n'y pense presque plus. Mais on s'appuie sur lui et sur ce qu'il a fait à la croix pour nous. Sur la croix, Christ nous a donné sa filiation. Et il demande simplement maintenant la confiance. Est-ce qu'on a confiance en Dieu? Est-ce qu'on a confiance au point qu'on pense que Dieu nous aime tellement qu'il veut vraiment faire de nous des fils et des filles par adoption? Alors l'évangile, il est fait pour toi. Il faut l'ouvrir, il faut le découvrir. Il faut regarder ce que le Christ a fait. Il faut regarder ce que Dieu, comment Dieu t'a aimé, comment ça a coûté pour lui. Et lui faire tout simplement confiance et l'accepter. Et te reposer sur tout ton poids. Et surtout, ne pas essayer de faire quelque chose de plus que ce que lui, il a fait. Un enfant adopté n'a aucun autre pouvoir si ce n'est le fait d'accepter cette adoption et d'être heureux de grandir dans la nouvelle famille qu'il héberge. Un fils ou une fille par adoption de Dieu est destiné à vivre sa vie sous la conduite de son Père Céleste. Son travail, son voisinage, tout change. La manière d'aborder les choses change. Et dernière chose, lors du renouvellement de toutes choses, quand Dieu va mettre à exécution son plan, le plan qu'il avait au commencement, lorsqu'il va fonder une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où la corruption n'existera plus, où il n'y aura plus des gens qui feront le régime d'un côté pendant que d'autres crèvent de faim de l'autre, où il y aura une justice parfaite, quand ce monde, et ce monde, il est déjà en marche, il va être établi d'un moment à l'autre, c'est ce que la Bible dit. Quand ce monde parfait va être instauré par Dieu, les fils et les filles de Dieu continueront de servir leur Père dans la nouvelle création d'une manière parfaite. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne le serons jamais, c'était un mensonge. Mais nous sommes destinés éternellement à servir Dieu comme son image, représentant de Dieu selon son image et à sa ressemblance. Mais que le Seigneur vous bénisse. C'est tellement important de savoir d'où on vient et où on va. Quand un enfant est enseigné dans une école, qu'il a de mauvais résultats, et qu'on lui apprend, mais tu n'es qu'un un accident du hasard, cet enfant, il va penser que sa valeur, elle dépend de ses notes. Quand plus tard, l'adulte, on va lui dire, tu sais, ce qui fait vraiment ta valeur, c'est le petit chiffre qu'il y a à droite de ta fiche de salaire. S'il n'a pas beaucoup de zéros, là, il va se sentir comme un moins que rien, s'il pense qu'il est un accident du hasard. Mais un fils ou une fille de Dieu par adoption sait que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce que la société dit qu'elle vaut ou qu'il vaut. Ce qui donne la valeur à un fils ou une fille, c'est la grandeur de son père. Et on a un père qui est grand. Ton père, c'est Dieu. Que le Seigneur te bénisse.